Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voyez comme le temps passe. À peine sommes-nous descendus dans l'arène du carême que déjà nous voilà à mi-parcours. D'où les ornements plus ou moins roses, d'où également les fleurs sur l'autel et ce ton des chants normalement un peu plus allègre. Et si nous sommes à mi-parcours, ça veut dire, parce que nous cherchons un peu d'efficacité spirituelle quand même, ça veut dire que l'heure est venue de faire un premier bilan de ce carême. Alors ne baissez pas tout de suite les yeux et considérez que je suis dans le même cas que vous, c'est-à-dire que j'avoue n'avoir trempé que le bout de mon orteil dans l'eau un peu glaciale du carême. Et l'Église nous propose, parce qu'elle est bonne, elle est notre mère, elle nous propose un étalon. Une aune pour savoir où nous en sommes de ce carême. N'ayons pas peur, regardons la réalité en face et plongeons-nous non pas dans l'évangile que je ne commenterai pas aujourd'hui, mais dans l'épître de saint Paul aux Galates. Quel est ce critère que nous offre l'épître? Que lisons-nous dans cette épître? En un sens littéral, une allusion aux deux fils d'Abraham, le patriarche, Ismaël, né de l'esclave Agar, Isaac, né, comme vous le savez, de la femme légitime Sarah, le premier Ismaël étant en fait le fruit de calculs humains, d'un Abraham qui n'avait pas encore le degré de foi qui convenait au patriarche. Sachant que sa femme Sarai était stérile et ayant entendu l'ordre de Dieu de susciter une postérité, il mit en pratique une vieille coutume de son pays d'origine ou de sa culture d'origine. Il était un païen de Mésopotamie. Il s'est accouplé, selon cette coutume d'origine, à la servante de Sarah pour parvenir à ses fins. Il ne s'agit pas d'un type particulièrement dégoûtant, il s'agit de quelqu'un qui applique les coutumes païennes de son temps. Le deuxième fils, Isaac, n'a évidemment rien à voir. Il est le fils obtenu via un miracle, qui est né de cette femme en principe stérile, grâce à la volonté divine, parce que Abraham avait accédé enfin à la foi, à de bonnes dispositions qui permettaient à Dieu de faire un miracle. Cette histoire relatée par saint Paul, nous la connaissons parfaitement. Ce qui nous est plus difficile de comprendre, c'est le sens symbolique, le sens allégorique que saint Paul met derrière la figure de ces personnages historiques. Alors je sais très bien ce que vous allez me dire, l'abbé, c'est quand même pas très compliqué, vous devriez porter des lunettes, parce que l'interprétation allégorique, saint Paul lui-même la donne dans la suite de son épître. Ismaël, c'est la figure des Juifs, c'est celui qui est né du peuple de l'ancienne alliance, et évidemment, le fils de Sarah, Isaac, il vient, comme nous le dit saint Paul lui-même, de la Jérusalem d'en haut. Donc on a bien compris que Ismaël était le peuple juif et qu'Isaac était l'Église. Alors mes frères, tout cela est vrai, je vous remercie de ce brillant cours d'exégèse. Moi-même, j'ai lu un petit peu l'épître d'aujourd'hui et je m'étais rendu compte de ça. Mais je crois que derrière cette interprétation que donne lui-même saint Paul, en réalité, il faut savoir lire encore plus profondément une autre interprétation. Il me semble que ce à quoi fait allusion saint Paul, avec la figure d'Isaac, le fils de la promesse, et d'Ismaël, le fils de la chair, ce n'est rien moins que la dualité foncière qui est au cœur de chacun d'entre nous. Il serait trop simple de considérer qu'Ismaël résume le peuple élu qui s'oppose à cet Isaac que nous sommes, nous, le vrai peuple de Dieu, l'Église. C'est encore une fois une dualité qui est au cœur de nous-mêmes, une schizophrénie qui nous ronge chaque jour, à laquelle fait allusion saint Paul par ces figures-là. Vous voyez ? Et de cette, par la foi du baptême, nous sommes devenus effectivement fils de la promesse. C'est-à-dire que notre fond naturel, dont nous avons hérité de nos parents selon la chair, notre fond naturel est totalement stérile, c'est-à-dire incapable d'accéder à la qualité d'enfant de Dieu. Or, de cet enfantement miraculeux que nous tenons de notre baptême, de cette dignité d'enfant de Dieu que nous avons reçue par l'immersion de la grâce, par plutôt l'infusion de la grâce en nous le jour de notre baptême, qui a réparé notre nature blessée, nous sommes devenus Isaac. Mais un petit Ismaël sommeille au fond de chacun d'entre nous qui est jaloux de ce nouvel enfant qui est né en nous. Voyez-vous, il livre sans merci une guerre au petit Isaac que nous sommes devenus par grâce. Saint Paul nous le dit, de même qu'alors, c'est-à-dire au temps d'Abraham, l'enfant de la chair, Ismaël, persécutait l'enfant de l'esprit, ainsi en est-il encore aujourd'hui. Qu'on ne s'y trompe pas, Saint Paul n'évoque pas seulement la violente opposition entre les Juifs et les chrétiens, et les chrétiens le l'auront bien rendu du reste, après la persécution juive, voilà, la persécution chrétienne contre les Juifs, il faut bien le reconnaître, ce n'est pas seulement à cela qu'il fait allusion, encore une fois, c'est à ce déchirement, cette guerre intestine, livrée jusqu'à ce que mort s'en suive, entre Ismaël et Isaac en nous. Je vous ai dit ailleurs que la guerre entre la chair et l'esprit, parce que Ismaël, c'est le fils selon la chair, et Isaac, c'est le fils selon l'esprit. Je vous ai dit ailleurs que cette discorde entre la chair et l'esprit, à laquelle fait allusion saint Paul, n'est pas à comprendre dans une perspective dualiste. La chair, ce n'est pas notre corps, et l'esprit, ce n'est pas notre âme. Ça, c'est le dualisme version cathare, qui est totalement étrangère à la pensée paulinienne. Saint Paul dénonce une autre dualité en nous, qui n'est pas la dualité entre le corps qui serait mauvais et notre âme qui serait bonne. Il dénonce cette dualité qui existe entre le vieil homme, qui est volontiers pécheur, qui croit pouvoir accéder à sa fin par ses propres forces, qui pense que parce qu'il reste dans les clous des préceptes divins, il peut acheter de Dieu le salut. Ça, c'est le vieil homme en nous, c'est la chair, c'est répugnant, c'est l'homme qui se fait Dieu. Et d'un autre côté, il y a l'esprit en nous, c'est-à-dire ce fils de Dieu qui reconnaît qu'il tient tout de son Créateur et Sauveur, qu'il n'a pas du tout à compter sur ses forces, parce que s'il le fait, il se casse la figure littéralement. Vous voyez ? Je vous disais en commençant que ce passage de l'Épître aux Galates nous offre un critère pour nous permettre de savoir où nous en sommes dans notre vie de carême, où nous en sommes du combat de carême. Vous voyez mieux, fort de ce que je viens de vous dire, que d'ailleurs vous connaissiez par ailleurs, ce que je voulais signifier par là. Est-ce que, c'est la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que nous avons progressé dans la fidélité à ce petit Isaac qui est en nous? Isaac, c'est celui qui est né d'Abraham, quand Abraham a enfin écouté ce que lui demandait son Dieu. Quand Abraham s'est mis à l'écoute de Yahvé, il faut que nous soyons fidèles à la parole de Dieu, que nous soyons à l'écoute de notre Dieu. Pas seulement à l'écoute de temps en temps, c'est-à-dire à la messe du dimanche, de façon plus ou moins fidèle, avec ce prêtre qui vient ensuite nous gangréner la parole de Dieu magnifique que nous venons d'entendre par ces paroles plus ou moins hasardeuses dans son sermon. Mais la parole, l'écoute de la parole quotidienne, la mise à l'écoute de la vocation à laquelle Dieu nous appelle chaque jour. Ça, je vous l'ai dit souvent, il y a une vocation générale dans votre vie, oui, d'accord, la vocation au mariage ou la vocation à la vie consacrée, mais il y a plus précisément et quotidiennement la volonté de Dieu sur vous, hic et nunc. Êtes-vous, oui ou non, et alors vous serez comme Isaac, à l'écoute de la parole de Dieu, ou comme Ismaël, ne vous fiez-vous qu'à votre propre petit conseil. Il est certain que cette vie d'Isaac est difficile. C'est en fait la vie selon la foi. Qu'est-ce que c'est que cette vie selon la foi? Qu'est-ce que la foi? C'est croire sans voir. Il faut, pour être fidèle à notre vocation chrétienne, croire sans voir. Et évidemment, croire sans voir, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que nous aimerions palper, nous aimerions toucher, nous aimerions entendre, nous aimerions voir, nous aimerions comprendre la volonté de Dieu sur nous. Il y a des mystères que nous ne comprenons pas, et cela nous est cruel à éprouver. Parce que notre fond, notre nature requiert de palper, de toucher, d'entendre et de comprendre. Dieu nous a fait avec une sensibilité qui veut palper. Dieu nous a fait avec une intelligence qui veut tout comprendre. Il est donc naturel que la vie de la foi soit difficile. Croire sans voir, croire sans toucher. N'écoutez pas ceux qui vous disent que la foi est facile. De temps à autre, dans certaines églises, dans certains sermons ou dans des discussions avec certains fidèles sur deux, vous entendez des gens très catégoriques qui vous disent « c'est quand même pas compliqué d'avoir la foi ». Mes frères, la foi est, me semble-t-il, le défi le plus compliqué qui soit lorsqu'on sait de quelle pâte est fait l'être humain. Alors, il ne faut pas du tout avoir peur de défaillir parfois dans la foi. Le modèle d'Abraham qui nous est donné aujourd'hui, en quoi consiste-t-il? Eh bien, c'est un homme qui tantôt croit, qui tantôt ne croit plus, qui enfante Ismaël de l'esclave Agar lorsqu'il ne croit pas assez, qui enfante au contraire Isaac de sa femme légitime lorsqu'il est vraiment à l'écoute de son Dieu et qu'il a la foi. Abraham lui-même est tombé, mes frères. Croyez-vous que nous soyons de la trempe d'Abraham, ce patriarche? Certainement pas. Nous sommes loin derrière lui. Il est donc bien compréhensible que de temps à autre, des doutes aient raison de notre foi. Il est légitime que nous tombions, que nous ayons envie de tout envoyer balader, parce que nous ne sommes pas de la trempe d'Abraham et qu'Abraham lui-même en est venu à des extrémités de ce type. Cessons de nous mortifier lorsque nous manquons de foi. Cessons de nous dire que nous sommes des fils indignes de Dieu et cessons de nous écarter des sacrements parce que nous ne serions pas capables de recevoir Jésus-Christ ayant douté de sa parole. Nous sommes dans un régime de la foi qui de temps à autre passe par le doute. Peut-être certains d'entre vous ne l'ont-ils pas encore éprouvé parce qu'ils sont trop jeunes ou parce que, je ne sais, peut-être ne sont-ils pas assez enfoncés dans la vie de la foi ou peut-être sont-ils préservés par une grâce singulière de Dieu. Rassurez-vous, plutôt inquiétez-vous, cela arrivera un jour. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une pédagogie divine très saine. Lorsque nous avons un manque de foi, lorsque nous doutons de quelque chose, lorsque nous ne comprenons pas et que cela nous est cruel, consolons-nous en nous disant bien une chose, Dieu qui aime infiniment l'homme, s'il permet que nous éprouvions ces épreuves-là, ne le fait qu'en vue de notre plus grand bien. Si nous pouvions tout de suite palper, toucher, entendre, j'en sais parmi vous, et c'est mon cas de temps en temps, qui demande sans cesse des miracles à Dieu, qui aimerait que Dieu descende du ciel, affirme enfin qui il est à la face de tout le monde, que les choses soient réglées et que le monde soit enfin le paradis. Si Dieu ne le fait pas, c'est que cela n'est pas bon pour nous. Si Dieu se cache, c'est que cela est bon pour nous. Je vais vous donner simplement, et je terminerai par là, un petit truc, c'est-à-dire une petite aide, une petite médecine particulière à appliquer lorsque vraiment la tempête est trop dure à essuyer, lorsque vraiment la vie de la foi est trop éprouvante. Je vous en ai déjà parlé, me semble-t-il, lorsque nous étions dans la grange, pas très loin d'ici, il y a à peine un an. Il s'agit de l'usage de la mémoire. Saint Augustin en parle en long, en large et en travers, dans les confessions et ailleurs. De quoi s'agit-il? Lorsque, à l'heure actuelle, je traverse une période de doute, lorsqu'il me semble que Dieu est très loin, ou que Dieu est méchant parce qu'il se cache, à quoi dois-je penser pour me consoler? Il s'agit simplement de prendre un papier, c'est très simple, et d'énumérer les différents moments de ma vie dont je me souviens, où il est clair que Dieu a fait sentir sa présence. Ne me dites pas que cela ne vous est jamais arrivé, je ne vous croirai pas. Forcément, à tel ou tel moment de votre vie, vous avez eu la certitude dont vous ne pouviez pas rendre compte rationnellement que Dieu était là. Vous avez senti sa présence. Vous avez senti sa main sur vous qui vous disait « fais ceci, fais cela » qui vous prenait par le col et vous amenait là où il était bon que vous soyez. Ne me dites pas encore une fois que vous ne l'avez jamais éprouvé, ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas un sadique et Dieu a permis que vous éprouviez ce genre de consolation. Lorsque les choses vont mal, de grâce mes frères, plutôt que de vous écarter de Dieu, au contraire, songez à vous rapprocher de lui en faisant encore une fois une liste, une énumération de toutes ces grâces insignes que Dieu vous a données pour vous consoler. Je vous assure que vous ressortirez regaillardi, que vous serez retourné par là à la maison du Père, comme le petit pousset, vous savez, qui, au gré de sa démarche dans la forêt, laisse des petites pierres blanches. Ces petites pierres blanches, mes frères, ce sont tous ces moments de consolation, tous ces moments où, avec évidence, nous avons senti la présence de Dieu. Je sais que tout cela ne suffit pas, mais enfin, je crois que nous pouvons nous tirer de certaines ornières par ce genre de petites techniques très simples, que je n'ai pas inventé, mais que je reprends au grand spirituel pour vous les proposer. Voilà mes frères, l'enjeu de cette épître, voilà l'enjeu du carême, être davantage enfant d'Abraham comme Isaac et non pas comme Ismaël, à l'écoute de la parole de Dieu et pas à l'écoute de nous-mêmes. Cessons d'écouter ce monde qui nous dit sans cesse qu'enfin il faut songer à nous, qu'il faut faire un break, qu'il faut sonder les profondeurs de notre psychologie. Nous n'avons rien à faire des profondeurs de la psychologie en matière spirituelle. Que nous soyons le plus taré des hommes, Dieu est là. Et Dieu vient nous sauver, ce n'est pas du même ordre que les failles psychologiques, il s'agit du salut que Dieu opère en nous, qui que nous soyons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.